Chapitre 2. Qui sommes-nous, je vous le demande, pour agir aussi légèrement? Gilbert était sorti joyeux pour se rendre à cette soirée. Il revint tremblant comme une feuille. Ce qu'il y avait dans ses vers d'un peu exagéré et d'un peu plus que vrai était devenu vrai dès que la comtesse y avait touché. Elle n'avait cependant rien répondu, et devant tant de témoins, impossible de l'interroger. Était-elle offensée? Comment interpréter son silence? Parlerait-elle la première fois et que dirait-elle? Son image se présentait tantôt froide et sévère, tantôt douce et riante. Gilbert ne put supporter l'incertitude. Après une nuit sans sommeil, il retourna chez la comtesse et il apprit qu'elle venait de partir en poste et qu'elle était allée au moulin de Mai. Il se rappela que, peu de jours auparavant, il lui avait demandé par hasard si elle comptait aller à la campagne, et qu'elle lui avait répondu que non. Ce souvenir le frappa tout à coup. « C'est à cause de moi qu'elle part, se dit-il, elle me craint, elle m'aime. » À ce dernier mot, il s'arrêta. Sa poitrine était oppressée, il respirait à peine, et je ne sais quelle frayeur le saisit. Il tressaillit malgré lui à l'idée d'avoir touché si vite un si noble cœur. Les volets fermés, la cour de l'hôtel déserte, quelques domestiques qui chargeaient un fourgon, ce départ précipité, cette sorte de fuite, tout cela le troubla et l'étonna. Il rentra chez lui à pas lents. En un quart d'heure, il était devenu un autre homme. Il ne prévoyait plus rien, ne calculait rien. Il ne savait plus ce qu'il avait fait la veille, ni de quelles circonstances l'avait amené là. Aucun sentiment d'orgueil ne trouvait place dans sa pensée. Durant cette journée entière, il ne songea pas même aux moyens de profiter de sa position nouvelle, ni à tenter de voir Emmeline. Elle ne lui apparaissait plus ni douce, ni sévère. Il la voyait assise à la terrasse, relisant les stances qu'elle avait gardées, et se répétant, elle-même, il se demandait s'il en était digne. Gilbert n'avait pas 25 ans. Lorsque sa conscience eut parlé, son âge lui parla à son tour. Il prit la voiture de Fontainebleau le lendemain et arriva le soir au moulin de Mai. Quand on l'annonça, Emmeline était seule. Elle le reçut avec un malaise visible. En le voyant fermer la porte, le souvenir de M. de Sorgues la fit pâlir. Mais à la première parole de Gilbert, elle vit qu'il n'était pas plus rassuré qu'elle-même. Au lieu de lui toucher la main comme il faisait d'ordinaire, il s'assit d'un air plus timide et plus réservé qu'auparavant. Ils restèrent seuls environ une heure, et il ne fut question ni d'estance ni de l'amour qu'elles exprimaient. Quand M. de Marsan rentra de la promenade, un nuage passa sur le front de Gilbert. Il se dit qu'il avait bien mal profité de son premier tête-à-tête. Mais il en fut tout autrement d'Emmeline. Le respect de Gilbert l'avait ému. Elle tomba dans la plus dangereuse rêverie. Elle avait compris qu'elle était aimée et de l'instant qu'elle se crut en sûreté, elle aima. Lorsqu'elle descendit le jour suivant au déjeuner, les belles couleurs de la jeunesse avaient reparu sur ses joues. Son visage, aussi bien que son cœur, avait rajeuni de 10 ans. Elle voulut sortir à cheval, malgré un temps affreux. Elle montait une superbe jument qui n'était pas facile de faire obéir, et il semblait qu'elle voulût exposer sa vie. Elle balançait en riant sa cravache au-dessus de la tête de l'animal inquiet, et elle ne put résister au singulier plaisir de le frapper sans qu'il l'eût mérité. Elle le sentit bondir de colère, et tandis qu'il secouait l'écume dont il était couvert, elle regarda Gilbert. Par un mouvement rapide, le jeune homme s'était approché et voulait saisir la bride du cheval. « Laissez, laissez !» dit-elle en riant. « Je ne tomberai pas ce matin. » Il fallait bien pourtant parler de ses stances. Et ils s'en parlaient en effet beaucoup tous deux, mais des yeux seulement. Oh, ce langage en vaut bien un autre. Gilbert passa 3 jours au moulin de mai, sur le point de tomber à genoux à chaque instant. Quand il regardait la taille d'Emeline, il tremblait de ne pouvoir résister à la tentation de l'entourer de ses bras, mais dès qu'elle faisait un pas, il se rangeait pour la laisser passer, comme s'il eût craint de toucher sa robe. Le 3e jour, au soir, il avait annoncé son départ pour le lendemain matin. Il fut question de valse en prenant le thé et de l'ode de Byron sur la valse. Emmeline remarqua que, pour parler avec tant d'animosité, il fallait que le plaisir eût excité bien vivement l'envie du poète qui ne pouvait le partager. Elle fut chercher le livre à l'appui de son dire, et pour que Gilbert pût lire avec elle, elle se plaça si près de lui que les cheveux lui effleurèrent la joue. Ce léger contact causa au jeune homme un frisson de plaisir auquel il n'eût pas résisté si M. de Marsan eût été là. Emmeline s'en aperçut et rougit. On ferma le livre et ce fut tout l'événement du voyage. « Ben, n'est-il pas vrai, madame, un amoureux assez bizarre ?»« Il y a un proverbe qui prétend que ce qui est différé n'est pas perdu. »« J'aime peu les proverbes en général, mais parce que ce sont des selles à tous chevaux. »« Il n'en est pas un qui n'est son contraire, et quelque conduite que l'on tienne, on en trouve un pour s'appuyer. » Mais je confesse que celui que je cite me paraît faux 100 fois dans l'application, pour une fois qu'il se trouvera juste, tout au plus à l'usage de ces gens aussi patients que résignés, aussi résignés qu'indifférents. Contienne ce langage en paradis, que les saints se disent entre eux que ce qui est différé n'est pas perdu, c'est à merveille. Ici est à des gens qui ont devant eux l'éternité de jeter le temps par les fenêtres. Mais nous, pauvres mortels, notre chance n'est pas si longue. Aussi je vous livre mon héros pour ce qu'il est. Je crois pourtant que s'il eût agi de toute autre manière, il eût été traité comme de sorgue. Madame de Marsan revint au bout de la semaine. Gilbert arriva un soir chez elle de très bonne heure. La chaleur était accablante. Il la trouva seule au fond de son boudoir, étendue sur un canapé. Elle était vêtue de mousseline, les bras et le col nus. 2 jardinières pleines de fleurs embaumaient la chambre. Une porte ouverte sur le jardin laissait entrer un air tiède et suave. Tout disposait à la mollesse. Cependant, une taquinerie étrange, inaccoutumée, vint traverser leur entretien. Je vous ai dit qu'il leur arrivait continuellement d'exprimer en même temps et dans les mêmes termes leurs pensées, leurs sensations. Mais ce soir-là, ils n'étaient d'accord sur rien, et par conséquent, tous deux de mauvaise foi. Emmeline passait en revue certaines femmes de sa connaissance. Gilbert en parla avec enthousiasme, et elle en disait du mal à proportion. L'obscurité vint, il se fit un silence. Un domestique entra, apportant une lampe. Madame de Marsan dit qu'elle n'en voulait pas et qu'on la mit dans le salon. À peine cet ordre donné, elle parut s'en repentir et s'est enlevée avec quelque embarras et se dirigea vers son piano. « Venez voir, dit-elle à Gilbert, le petit tabouret de ma loge, que je viens de faire monter autrement. Oh, il me sert maintenant pour m'asseoir, là. On vient de me l'apporter tout à l'heure et je vais vous faire un peu de musique pour que vous en ayez l'étrenne. » Elle préludait doucement par de vagues mélodies et Gilbert reconnut bientôt son air favori, le désir de Beethoven. S'oubliant peu à peu, Emmeline répandit dans son exécution l'expression la plus passionnée, prenant le mouvement, fressant le mouvement à faire battre le cœur, puis s'arrêtant tout à coup comme si la respiration lui eût manqué, forçant le son et le laissant s'éteindre. Nulle parole n'égaleront jamais la tendresse d'un pareil langage. Gilbert était debout, et de temps en temps les beaux yeux se levaient pour le consulter. Il s'appuya sur l'angle du piano, et tous deux luttaient contre le trouble, quand un accident presque ridicule vint les tirer de leur rêverie. Le tabouret cassa tout à coup, et Emmeline tomba aux pieds de Gilbert. Il s'élança pour lui tendre la main, elle la prit et se releva en riant. Il était pâle comme un mort, craignant qu'elle ne se fût blessée. « C'est bon, dit-elle, donnez-moi une chaise. Ne dirait-on pas que je suis tombée d'un cinquième ?» Elle se mit à jouer une contredanse et, tout en jouant, à la plaisanter sur la peur qu'il avait eue. « Mais n'est-il pas tout simple, dit-il, que je m'effraie de vous voir tomber ?»« Bah, répondait-elle, c'est un effet nerveux. Ne croyez pas que j'en sois reconnaissante. Je conviens que ma chute est ridicule, mais je trouve, ajouta-t-elle assez sèchement, je trouve que votre peur l'est davantage. » Gilbert fit quelques tours de chambre et la contredanse d'Emmeline devenait moins gaie d'instant en instant. Elle sentait qu'en voulant le railler, elle l'avait blessé. Il était trop ému pour pouvoir parler. Il revint s'appuyer au même endroit devant elle. Ses yeux gonflés ne purent retenir quelques larmes. Emmeline se leva aussitôt et fut s'asseoir au fond de la chambre dans un coin obscur. Il s'approcha d'elle et lui reprocha sa dureté. C'était le tour de la comtesse à ne pouvoir répondre. Elle restait muette et dans un état d'agitation impossible à peindre. Il prit son chapeau pour sortir, et ne pouvant s'y décider, s'assit près d'elle. Elle se détourna et étendit le bras comme pour lui faire signe de partir. Il la saisit et la serra sur son cœur. Au même instant, on sonna à la porte, et Emmeline se jeta dans un cabinet. Le pauvre garçon ne s'aperçut le lendemain qu'il allait chez Madame de Marsan qu'au moment où il y arrivait. L'expérience lui faisait craindre de la trouver sévère et offensée de ce qui s'était passé. Il se trompait. Il la trouva calme et indulgente. Et le premier mot de la comtesse fut qu'elle l'attendait. Mais elle lui annonça fermement qu'il leur fallait cesser de se voir. « Je ne me repens pas, lui dit-elle, de la faute que j'ai commise, et je ne cherche à m'abuser en rien. Mais, quoi que je puisse faire souffrir et souffrir moi-même, M. de Marsan est entre nous. Je ne puis mentir. Oubliez-moi. » Gilbert fut atterré par cette franchise dont l'accent persuasif ne permettait aucun doute. Il dédaignait les phrases vulgaires et les vaines menaces de mort qui arrivent toujours en pareil cas. Il tenta d'être aussi courageux que la comtesse et de lui prouver du moins par là quelle estime il avait pour elle. Il lui répondit qu'il obéirait, qu'il quitterait Paris pour quelque temps. Elle lui demanda où il comptait aller et lui promit de lui écrire. Elle voulut qu'il la connût tout entière et lui raconta en quelques mots l'histoire de sa vie, lui peignit sa position, l'état de son cœur, et ne se fit pas plus heureuse qu'elle n'était. Elle lui rendit ses vers et le remercia de lui avoir donné un moment de bonheur. « Je m'y suis livrée, lui dit-elle, sans vouloir y réfléchir. J'étais sûre que l'impossible m'arrêterait, mais je n'ai pu résister à ce qui était possible. J'espère que vous ne verrez pas dans ma conduite une coquetterie que je n'y ai pas mise. J'aurais dû songer davantage à vous, mais je ne vous crois pas assez d'amour pour que vous en guérissiez bientôt.
Je serai assez franc, répondit Gilbert, pour vous dire que je n'en sais rien, mais je ne crois pas en guérir.
Votre beauté m'a moins touché que votre esprit et votre caractère. Et si l'image d'un beau visage peut s'effacer par l'absence ou par les années, la perte d'un être tel que vous est à jamais irréparable. Sans doute, je guérirai en apparence, et il est presque certain que dans quelque temps je reprendrai mon existence habituelle. Mais ma raison même dira toujours que vous eussiez fait le bonheur de ma vie. Ces vers que vous me rendez ont été écrits comme par hasard. Un instant d'ivresse les a inspirés, mais le sentiment qu'ils expriment est en moi depuis que je vous connais, et je n'ai eu la force de le cacher que par cela même qu'il est juste et durable. Nous ne serons donc heureux ni l'un ni l'autre, et nous ferons au monde un sacrifice que rien ne pourra compenser. Ce n'est pas au monde que nous le ferons, dit Emmeline. Mais à nous-mêmes, ou plutôt c'est à moi que vous le ferez. Le mensonge m'est insupportable. Et hier soir, après votre départ, j'ai failli tout dire à monsieur de Marsan. Allons, ajouta-t-elle gaiement, allons, mon ami, tâchons de vivre. Gilbert lui baisa la main respectueusement, et ils se séparèrent. À peine cette détermination fut-elle prise qu'ils la sentirent impossible à réaliser. Ils n'eurent pas besoin de longues explications pour en convenir mutuellement. Gilbert resta 2 mois sans venir chez madame de Marsan, et pendant ces 2 mois, ils perdirent l'un et l'autre l'appétit et le sommeil. Au bout de ce temps, Gilbert se trouva un soir tellement désolé et ennuyé que, sans savoir ce qu'il faisait, il prit son chapeau et arriva chez la comtesse à son heure ordinaire comme si de rien n'était. Elle ne songea pas à lui adresser un reproche de ce qu'il ne tenait pas sa parole. Dès qu'elle l'eut regardé, elle comprit ce qu'il avait souffert, et il la vit si pâle et si changée qu'il se repentit de n'être pas revenu plus tôt. Ce qu'Emmeline avait dans le cœur n'était ni un caprice ni une passion. C'était la voix de la nature même qui lui criait qu'elle avait besoin d'un nouvel amour. Elle n'avait pas fait grande réflexion sur le caractère de Gilbert. Il lui plaisait, il était là. Il lui disait qu'il l'aimait, et il l'aimait d'une toute autre manière que M. de Marsan ne l'avait aimé. L'esprit d'Emmeline, son intelligence, son imagination enthousiaste, toutes les nobles qualités renfermées en elle souffraient à son insu. Les larmes qu'elle croyait répandre sans raison demandaient à couler malgré elle et la forçaient d'en chercher le motif. Et tout à l'heure le lui apprenait ses livres, sa musique, ses fleurs, ses habitudes même et sa vie solitaire. Il fallait aimer et combattre ou se résigner à mourir. Ce fut avec une fierté courageuse que la comtesse de Marsan envisagea l'abîme où elle allait tomber. Lorsque Gilbert la serra de nouveau dans ses bras, elle regarda le ciel comme pour le prendre à témoin de sa faute et de ce qu'elle allait lui coûter. Gilbert comprit ce regard mélancolique. Il mesura la grandeur de sa tâche à la noblesse du cœur de son ami. Il sentit qu'il avait entre les mains le pouvoir de lui rendre l'existence ou de la dégrader à jamais. Cette pensée lui inspira moins d'orgueil que de joie. Il se jura de se consacrer à elle et remercia Dieu de l'amour qu'il éprouvait. La nécessité du mensonge désolait pourtant la jeune femme. Elle n'en parla plus à son amant et garda cette peine secrète. Du reste, l'idée de résister plus ou moins longtemps, du moment qu'elle ne pouvait résister toujours, ne lui vint pas à l'esprit.
Elle compta, pour ainsi dire, ses chances de souffrance et ses chances de bonheur, et mit hardiment sa vie pour enjeu. Au moment où Gilbert revint, elle se trouva forcée de passer 3 jours à la campagne. Il la conjurait de lui accorder un rendez-vous avant de partir. « Je le ferai, si vous voulez, lui répondit-elle, mais je vous supplie de me laisser attendre. » Le 4e jour, un jeune homme entra vers minuit au café anglais. « Que veut monsieur ?» demande le garçon. « Tout ce que vous avez de meilleur, répondit le jeune homme avec un air de joie qui fit retourner tout le monde. À la même heure, au fond de l'hôtel de Marsan, une persienne entr'ouverte laissait apercevoir une lueur derrière un rideau. Seule, en déshabillé de nuit, Madame de Marsan était assise sur une petite chaise, dans sa chambre, les verrous tirés derrière elle. « Demain, je serai à lui. Sera-t-il à moi ?» Emmeline ne pensait pas à comparer sa conduite à celle des autres femmes. Il n'y avait pour elle, en cet instant, ni douleur ni remords. Tout faisait silence devant l'idée du lendemain. Oserais-je vous dire à quoi elle pensait? Oserais-je écrire ce qui, à cette heure redoutable, inquiétait une belle et noble femme, la plus sensible et la plus honnête que je connaisse, à la veille de la seule faute qu'elle ait jamais eue à se reprocher? Elle pensait à sa beauté. Amour, dévouement, sincérité du cœur, convenance, sympathie de goût, crainte, danger, repentir, tout était chassé, tout était détruit par la plus vive inquiétude sur ses charmes, sur sa beauté corporelle. La lueur que nous apercevons, c'est celle d'un flambeau qu'elle tient à la main. Sa psyché est en face d'elle, elle se retourne, écoute, nul témoin, nul bruit. Elle a entr'ouvert le voile qui la couvre, et comme Vénus devant le berger de la fable, elle comparaît timidement. « Pour vous parler du jour suivant, je ne puis mieux faire, madame, que de vous transcrire une lettre d'Emeline à sa sœur, où elle peint elle-même ce qu'elle éprouvait. J'étais à lui. À toutes mes anxiétés avait succédé un abattement extrême. J'étais brisé. Et ce malaise me plaisait. Je passais la soirée en rêverie. Je voyais des formes vagues, j'entendais des voix lointaines. Je distinguais mon ange, ma vie, et je m'affaissais encore, plus encore. Pas une fois ma pensée ne s'est reportée sur les inquiétudes du jour précédent, durant cette demi-léthargie qui me reste en mémoire comme l'état que je choisirais en paradis. Je me couchais et dormis comme un nouveau-né. Au réveil, le matin, un souvenir confus des événements de la veille fit rapidement porter le sang au cœur. Une palpitation me fit dresser sur mon séant et je m'entendis m'écrier à haute voix. C'en est fait ! J'appuyai ma tête sur mes genoux et je me précipitai au fond de mon âme. Pour la première fois, il me vint la crainte qu'il ne m'eût mal jugé. La simplicité avec laquelle j'avais cédé pouvait lui donner cette opinion. En dépit de son esprit, de son tact, je pouvais craindre une mauvaise expérience du monde. Si ce n'était pour lui qu'une fantaisie, une difficulté à vaincre. Trop étonné, trop ému, bouleversé par tous les sentiments qui me subjuguaient, je n'avais pas assez étudié les siens. J'avais peur, je respirais court. « Eh bien, me dis-je bravement, le jour où il me connaîtra, il aura un arriéré à payer. » Tout ce sombre fut éclairé tout à coup par de doux soupirs. Je sentais un sourire erré autour de ma bouche. Comme la veille, je revis toute sa figure, belle d'une expression que je n'ai vue nulle part, même dans les chefs-d'œuvre des grands maîtres. J'y lisais l'amour, le respect, le culte, et ce doute, cette crainte de ne pas obtenir tant on désire vivement. Voilà pour la femme l'instant suprême. Et ainsi bercé, je m'habillais. On a un grand plaisir à la toilette quand on attend son amant.
Emmeline avait mis 5 ans à s'apercevoir que son premier choix ne pouvait la rendre heureuse. Elle en avait souffert pendant 1 an. Elle avait lutté 6 mois contre une passion naissante, 2 mois contre un amour avoué. Elle avait enfin succombé et son bonheur dura 15 jours. 15 jours, c'est bien court, n'est-ce pas? J'ai commencé ce conte sans y réfléchir, et je vois qu'arrivé au moment dont la pensée m'a fait prendre la plume, je n'ai rien à en dire, sinon qu'il fut bien court. Comment tenterai-je de vous le peindre? Vous raconterai-je ce qui est inexprimable et ce que les plus grands génies de la terre ont laissé deviner dans leurs ouvrages, faute d'une parole qui pût le rendre? Certes, vous ne vous y attendez pas, et je ne commettrai pas ce sacrilège. Ce qui vient du cœur peut s'écrire, mais non ce qui est le cœur lui-même. D'ailleurs, en 15 jours, si on est heureux, a-t-on le temps de s'en apercevoir? Emmeline et Gilbert étaient encore étonnés de leur bonheur. Ils n'osaient y croire et s'émerveillaient de la vive tendresse dont leur cœur était plein. Est-il possible, se demandait-il, que nos regards se soient jamais rencontrés avec indifférence et que nos mains se soient touchées froidement? Quoi, je t'ai regardé, disait Emmeline, sans que mes yeux se soient voilés de larmes, je t'ai écouté sans baiser tes lèvres, tu m'as parlé comme à tout le monde et je t'ai répondu sans te le dire que je t'aimais. Non, répondait Gilbert. « Ton regard, ta voix te trahissaient. Grand Dieu, comme il me pénétrait. C'est moi que la crainte a arrêté, qui suis cause que nous nous aimons si tard. » Alors il se serrait la main, comme pour se dire tacitement, « Calmons-nous, il y a de quoi en mourir. » À peine avait-il commencé à s'habituer de se voir en secret et à jouir des frayeurs du mystère, à peine Gilbert connaissait-il ce nouveau visage que prend tout à coup une femme en tombant dans les bras de son amant, à peine les premiers sourires avaient-ils paru à travers les larmes d'Emmeline, à peine s'étaient-ils jurés de s'aimer toujours, pauvres enfants. Confiants dans leur sort, ils s'y abandonnaient sans crainte et savouraient lentement le plaisir de reconnaître qu'ils ne s'étaient pas trompés dans leur mutuelle espérance. Ils en étaient encore à se dire « Comme nous allons être heureux !» quand leur bonheur s'évanouit. Le comte de Marsan était un homme ferme et sur les choses importantes, son coup d'œil ne le trompait pas. Il avait vu sa femme triste, il avait pensé qu'elle l'aimait moins et il ne s'en était pas soucié. Mais il la vit préoccupée et inquiète et il résolut de ne pas le souffrir. Dès qu'il prit la peine d'en chercher la cause, il la trouva facilement. Emmeline s'était troublée à sa première question et à la seconde avait été sur le point de tout avouer. Il ne voulut point d'une confidence de cette nature et, sans en parler autrement à personne, il s'en fut à l'hôtel Garni qu'il habitait avant son mariage et y retint un appartement. Comme sa femme allait se coucher, il entra chez elle en robe de chambre et, s'étant assis en face d'elle, il lui parla à peu près ainsi. « Vous me connaissez assez, ma chère, pour savoir que je ne suis pas jaloux. J'ai eu pour vous beaucoup d'amour, j'ai et j'aurai toujours pour vous beaucoup d'estime et d'amitié. Il est certain qu'à notre âge et après tant d'années passées ensemble, une tolérance réciproque nous est nécessaire. » pour que nous puissions continuer de vivre en paix. J'use, pour ma part, de la liberté que doit avoir un homme, et je trouve bon que vous en fassiez autant. Si j'avais apporté dans cette maison tant de fortune que vous, je ne vous parlerais pas ainsi, je vous laisserais le comprendre. Mais je suis pauvre, et notre contrat de mariage m'a laissé pauvre par ma volonté. Ce qui, chez un autre, ne serait que de l'indulgence ou de la sagesse, serait pour moi de la bassesse.
quelques précautions qu'on prenne, une intrigue n'est jamais secrète, il faut tôt ou tard qu'on en parle. Ce jour arrivé, vous sentez que je ne serai rangé ni dans la catégorie des maris complaisants, ni même dans celle des maris ridicules, mais qu'on ne verrait en moi qu'un misérable à qui l'argent fait tout supporter. Il n'entre pas dans mon caractère de faire un éclat qui déshonore à la fois deux familles, quel qu'en soit le résultat. Je n'ai de haine ni contre vous ni contre personne. C'est pour cette raison même que je viens vous annoncer la résolution que j'ai prise afin de prévenir les suites de l'étonnement qu'elle pourra causer. Je demeurerai, à partir de la semaine prochaine, dans l'hôtel Garni que j'habitais quand j'ai fait la connaissance de votre mère. Je suis fâché de rester à Paris, mais je n'ai pas de quoi voyager. Il faut que je me loge et cette maison-là me plaît. Voyez ce que vous voulez faire et, si c'est possible, j'agirai en conséquence. » Madame de Marsan avait écouté son mari avec un étonnement toujours croissant. Elle resta comme une statue. Elle vit qu'il était décidé et elle n'y pouvait croire. Elle se jeta à son cou presque involontairement. Elle s'écria que rien au monde ne la ferait consentir à cette séparation. À tout ce qu'elle disait, il n'opposait que le silence. Émeline éclata en sanglots. Elle se mit à genoux et voulut confesser sa faute. Il l'arrêta et refusa de l'entendre. Il s'efforça de l'apaiser, lui répéta qu'il n'avait contre elle aucun ressentiment. Puis il sortit malgré ses prières. Le lendemain, ils ne se virent pas. Lorsqu'Emeline demanda si le comte était chez lui, on lui répondit qu'il était parti de grand matin et qu'il ne rentrerait pas de la journée. Elle voulut l'attendre et s'enferma à 6 heures du soir dans l'appartement de M. de Marsan. Mais le courage lui manqua et elle fut obligée de retourner chez elle. Le jour suivant, au déjeuner, le comte descendit en habit de cheval. Les domestiques commençaient à faire ses paquets et le corridor était plein de hardes en désordre. Emeline s'approcha de son mari en le voyant entrer et il la baisa sur le front. Ils s'assirent en silence. On déjeunait dans la chambre à coucher de la comtesse. En face d'elle était sa psyché. Elle croyait y voir son fantôme. Ses cheveux en désordre, son visage abattu, semblait lui reprocher sa faute. Elle demanda au comte, d'une voix mal assurée, s'il comptait toujours quitter l'hôtel. Il répondit qu'il s'y disposait et que son départ était fixé pour le lundi suivant. « Mais n'y a-t-il aucun moyen de retarder ce départ ? » demanda-t-elle d'un ton suppliant. « Ce qui est ne peut se changer, » répliqua le comte. « Avez-vous réfléchi à ce que vous comptez faire ?» « Mais que voulez-vous que je fasse ? » dit-elle. Monsieur de Marsan ne répondit pas. « Mais que voulez-vous ? » répéta-t-elle. « Quel moyen puis-je avoir de vous fléchir ? Quelle expiation, quel sacrifice puis-je vous offrir que vous consentiez à accepter ?»« C'est à vous de le savoir, » dit le comte. Il se leva et s'en fut sans dire plus. Mais le soir même, il revint chez sa femme et son visage était moins sévère. Ces 2 jours avaient tellement fatigué Emeline qu'elle était d'une pâleur effrayante. Monsieur de Marsan ne put, en le remarquant, se défendre d'un mouvement de compassion. « Eh bien, ma chère, dit-il, qu'avez-vous ? » « Je pense, répondit-elle, et je vois que rien n'est possible. » « Vous l'aimez donc beaucoup ? » demanda-t-il. Malgré l'air froid qu'il affectait, Emeline vit dans cette question un mouvement de jalousie. Elle crut que la démarche de son mari pourrait bien être qu'une tentative de se rapprocher d'elle, et cette idée lui fut pénible. Tous les hommes sont ainsi, pensa-t-elle. Ils méprisent ce qu'ils possèdent et reviennent avec ardeur à ce qu'ils ont perdu par leur faute. Elle voulut savoir jusqu'à quel point elle devinait juste et répondit d'un ton hautain. « Oui, monsieur, je l'aime et là-dessus du moins je ne mentirai pas. » « Je conçois cela, reprit M. de Marsan, et j'aurais mauvaise grâce à vouloir lutter ici contre personne. Je n'en ai ni le moyen ni l'envie. » Emmeline vit qu'elle s'était trompée. Elle voulait parler et ne trouvait rien. Que répondre en effet à la façon d'agir du comte? Il avait deviné clairement ce qui s'était passé, et le parti qu'il avait pris était juste sans être cruel. Elle commençait une phrase et ne pouvait l'achever. Elle pleurait. Monsieur de Marsan lui dit avec douceur, « Calmez-vous, songez que vous avez commis une faute, mais que vous avez un ami qui la sait et qui vous aidera à la réparer. » « Mais que ferait donc cet ami ?» dit Emmeline. « S'il était aussi riche que moi, puisque cette misérable question de fortune le décide à me quitter, que feriez-vous si notre contrat n'existait pas ?» Emmeline se leva, alla à son secrétaire, en tira son contrat de mariage et le brûla à la bougie qui était sur la table. Le comte la regarda faire jusqu'au bout. « Je vous comprends, lui dit-il enfin, et bien que ce que vous venez de faire soit une action sans conséquence, puisque le double est chez le notaire, cette action vous honore et je vous en remercie. Mais songez donc, ajouta-t-il en embrassant Emmeline, songez donc que s'il ne s'agissait ici que d'une formalité annulée, je n'aurais fait qu'abuser de mes avantages. » Vous pouvez d'un trait de plume me rendre aussi riche que vous, je le sais, mais je n'y consentirai pas, et aujourd'hui moins que jamais. Orgueilleux que vous êtes, s'écria Emmeline désespérée, et pourquoi refuseriez-vous? Monsieur de Marsan lui tenait la main, il la serra légèrement et répondit, parce que vous l'aimez. Par une de ces belles matinées d'automne où le soleil brille de tout son éclat et semble dire adieu à la verdure mourante, Gilbert était accoudé à une petite fenêtre au second étage dans une rue écartée derrière les Champs-Élysées. Tout en fredonnant un air de la Norba, il regardait attentivement chaque voiture qui passait sur la chaussée. Quand la voiture arrivait au coin de la rue, la chanson s'arrêtait. Mais la voiture continuait sa route, et il fallait en attendre une autre. Il en passa beaucoup ce jour-là, mais le jeune homme inquiet ne vit dans aucune un petit chapeau de paille d'Italie et une mantille noire. Une heure sonna, puis deux. Il était trop tard. Après avoir regardé 20 fois à sa montre, avoir fait autant de tours de chambre et s'être désolé et rassuré plus souvent encore alternativement, Gilbert descendit enfin et erra quelque temps dans les allées. En rentrant chez lui, il demanda à son portier s'il n'y avait point de lettre, et la réponse fut négative. Un pressentiment de sinistre augure l'agita toute la journée. Vers 10 heures du soir, il montait, non sans crainte, le grand escalier de l'hôtel de Marsan. La lampe n'était pas allumée, cela le surprit et l'inquiéta. Il sonna, personne ne venait. Il toucha la porte qui s'ouvrit et s'arrêta dans la salle à manger. Une femme de chambre vint à sa rencontre. Il lui demanda s'il pouvait entrer. Je vais le demander, répondit-elle. Comme elle entrait dans le salon, Gilbert entendit entre les deux portes une voix tremblante qu'il reconnut et qui disait tout bas « Dites-lui que je n'y suis pas !» Il m'a dit lui-même que ce mot de peu de mots prononcés dans les ténèbres au moment où il s'y attendait le moins lui avait fait plus de mal qu'un coup d'épée. Il sortit dans un étonnement inexprimable. « Elle était là, se dit-il, elle m'a vu sans doute, mais qu'arrive-t-il ? Ne pouvait-elle me dire un mot, ou du moins m'écrire ?» 8 jours se passèrent sans lettre et sans qu'il pût voir la comtesse. Enfin, il reçut la lettre suivante. « Adieu. Il faut que vous vous souveniez de votre projet de voyage et que vous me teniez parole. Ah, je fais un grand sacrifice en ce moment. Quelques mots profondément sentis et que vous m'avez dit au sujet d'un parti funeste que je voulais prendre m'arrêtent seul. Non, je vivrai. Mais il ne faut pas entièrement arracher une pensée qui seule me donnait une apparence de tranquillité. Permettez, mon ami, que je la place seulement à distance, avec des conditions. Si, par exemple, une entière indifférence pour moi prenait place dans votre cœur, si une fois de retour et le cœur affermi, vous ne me veniez plus voir, si jamais mon image, mon amour ne venait plus, il est impossible de continuer l'affreuse vie que je mène. Le plus malheureux est celui qui reste, il faut donc que ce soit vous qui partiez. Vos affaires vous le permettent-elles? Ou voulez-vous que j'aille je ne sais où? Répondez-moi. Ce sera vous qui aurez de la force. Je n'en ai pas du tout. Ayez pitié de moi. Dites, que sais-je, que vous guérirez. Mais ce n'est pas vrai. N'importe. Dites toujours. Évitez de me voir avant le voyage. Il faut de la force et je ne sais où vous en prendre. Je n'ai cessé de pleurer et de vous écrire depuis 8 jours. Je jette tout au feu. Vous trouverez cette lettre encore bien incohérente. Monsieur de Marsan sait tout. Mentir m'a été impossible. D'ailleurs, il le savait. Cependant, cette lettre est loin d'exprimer ce qu'il y a de contradictoire entre mon cœur et ma raison. Allez dans le monde ces jours-ci, que votre départ n'ait point l'air d'un coup de tête. De sitôt, je ne pourrai sortir ni recevoir. La voix me manque à tout moment. Vous m'écrirez, n'est-ce pas? Il est impossible que vous partiez sans m'écrire quelques lignes. Voyagez. C'est vous qui allez voyager. Le malheur de Gilbert lui parut un rêve. Il pensait aller chez M. de Marsan et à lui chercher querelle. Il tomba à terre au milieu de sa chambre et versa les larmes les plus amères. Enfin, il résolut de voir la comtesse à tout prix et d'avoir l'explication de cet événement qui lui était annoncé d'une manière si peu intelligible. Il courut à l'hôtel de Marsan et, sans parler à aucun domestique, il pénétra jusqu'au salon. Là, il s'arrêta à la pensée de compromettre celle qu'il aimait et de la perdre peut-être par sa faute. Entendant quelqu'un approcher, il se jeta derrière un rideau. C'était le comte qui entrait. Demeuré seul, Gilbert avança, et entr'ouvrant la porte d'un cabinet vitré, il vit Emmeline couchée et son mari près d'elle. Au pied du lit était un linge couvert de sang, et le médecin s'essuyait les mains. Ce spectacle lui fit horreur. Il frémit de l'idée d'ajouter, par son imprudence, aux mots de sa maîtresse, et, marchant sur la pointe du pied, il sortit de l'hôtel sans être remarqué. Il sut bientôt que la comtesse avait été en danger de mort, et une nouvelle lettre lui apprit en détail ce qui s'était passé. « Renoncer à nous voir, disait Emmeline, est impossible, il n'y faut pas songer. » Et cette idée qui vous désole ne me cause aucune peine, car je ne puis l'admettre un instant. Mais nous séparer pour 6 mois, pour 1 an, voilà ce qui me fait sangloter et me déchire l'âme, car c'est là tout ce qui est possible. Et elle ajoutait que, si avant son départ, il éprouvait un désir trop vif de la revoir encore une fois, elle y consentirait. Il refusa cette entrevue. Il avait besoin de toute sa force, et bien que convaincu de la nécessité de s'éloigner, il ne pouvait prendre aucun parti. Vivre sans Emmeline lui semblait un mot vide de sens et, pour ainsi dire, un mensonge. Il se jura cependant d'obéir à tout prix et de sacrifier son existence, s'il le fallait, au repos de Madame de Marsan. Il mit ses affaires en ordre, dit adieu à ses amis, annonça à tout le monde qu'il allait en Italie. Puis, quand tout fut prêt et qu'il eut son passeport, il resta enfermé chez lui, se promettant chaque soir de partir le lendemain et passant la journée à pleurer. Emmeline, de son côté, n'était guère plus courageuse, comme vous pouvez penser. Dès qu'elle put supporter la voiture, elle alla au moulin de mai. Monsieur de Marsan ne la quittait pas. Il eut pour elle, pendant sa maladie, l'amitié d'un frère et les soins d'une mère. Je n'ai pas besoin de dire qu'il avait pardonné et que la vue des souffrances de sa femme l'avait fait renoncer à ses projets de séparation. Il ne parla plus de Gilbert et je ne crois pas que depuis cette époque il ait prononcé ce nom, étant seul avec la comtesse. Il apprit le voyage annoncé et n'en parut ni joyeux ni triste. On devinait aisément à sa conduite qu'il se reconnaissait au fond du cœur coupable d'avoir négligé sa femme et d'avoir si peu fait pour son bonheur. Lorsque, appuyée à son bras, Emmeline se promenait lentement avec lui dans la longue allée des soupirs, il paraissait presque aussi triste qu'elle. Et Emmeline lui sut gré de ce qui ne tenta jamais de rappeler l'ancien amour, ni de combattre l'amour nouveau. Elle brûla les lettres de Gilbert, et dans ce sacrifice douloureux, ne respecta qu'une seule ligne écrite de la main de son amant, « Pour vous, tout au monde ». En relisant ces mots, elle ne put se résoudre à les anéantir. C'était l'adieu du pauvre garçon. Elle coupa cette ligne avec des ciseaux et la porta longtemps sur son cœur. « S'il faut jamais me séparer de ces mots-là, écrivait-elle à Gilbert, je les avalerai. Maintenant ma vie n'est plus qu'une pincée de cendres et je ne pourrai de longtemps regarder ma cheminée sans pleurer. » Était-elle sincère, demanderez-vous, peut-être. Ne fit-elle aucune tentative pour revoir son amant? Ne se repentait-elle pas de son sacrifice? N'essaya-t-elle jamais de revenir sur sa résolution? Oui, madame, elle l'essaya. Je ne veux la faire ni meilleure ni plus brave qu'elle ne l'a été. Oui, elle essaya de mentir, de tromper son mari. En dépit de ses serments, de ses promesses, de ses douleurs et de ses remords, elle revit Gilbert. Et après avoir passé 2 heures avec lui dans un délire de joie et d'amour, elle sentit, entrant chez elle, qu'elle ne pourrait ni tromper ni mentir. Je vous dirai plus. Gilbert la sentit lui-même et ne lui demanda pas de revenir. Cependant, il ne partait pas encore et ne parlait plus de voyage. Au bout de quelques jours, il voulait déjà se persuader qu'il était plus calme et qu'il n'y avait aucun danger à rester. Il tâchait, dans ses lettres, de faire consentir Emmeline à ce qu'il passât l'hiver à Paris. Elle hésitait, et tout en renonçant à l'amour, elle commençait à parler d'amitié. Ils cherchaient tous deux 1000 motifs de prolonger leur souffrance, ou du moins de se voir souffrir. Qu'allait-il arriver? Je ne sais. Je crois vous avoir dit, madame, qu'Emmeline avait une sœur. C'était une belle et grande jeune fille, et de plus un excellent cœur. Soit par une timidité excessive, soit par une autre cause, elle n'avait jamais parlé à Gilbert qu'avec une extrême réserve et presque avec répugnance lorsqu'elle avait eu l'occasion de le rencontrer. Gilbert avait des manières d'étourdie et des façons de dire qui, bien que simples et naturelles, devaient blesser une modestie et une pudeur parfaites. La franchise même du jeune homme et son caractère exalté avaient peu de chances de rencontrer de la sympathie chez la sévère Sarah, c'était le nom de la sœur d'Emeline. Aussi, quelques mots de politesse échangés au hasard, quelques compliments lorsque Sarah chantait, une contredanse de temps en temps, c'était là toute la connaissance qu'ils avaient faite, et leur amitié n'allait pas plus loin. Au milieu de ces dernières circonstances, Gilbert reçut une invitation de bal d'une amie de Madame de Marsan, et il crut devoir y aller pour se conformer au désir de sa maîtresse. Sarah était à cette soirée. Il fut s'asseoir à côté d'elle. Il savait quelle tendre affection unissait la comtesse à sa sœur, et c'était pour lui une occasion de parler de ce qu'il aimait à quelqu'un qui le comprenait. La maladie récente servit de prétexte. S'informer de la santé d'Emeline, c'était s'informer de son amour. Contre sa coutume, Sarah répondit avec confiance et avec douceur. Et l'orchestre ayant donné au milieu de leur entretien le signal d'une contredanse, elle dit qu'elle était lasse et refusa son danseur qui venait la chercher. Le bruit des instruments et le tumulte du bal leur donnant plus de liberté, la jeune fille commença à laisser comprendre à Gilbert qu'elle savait la cause du mal d'Emeline. Elle parla des souffrances de sa sœur et raconta ce qu'elle en avait vu. Pendant ce récit, Gilbert baissait la tête. Quand il la releva, une larme coulait sur sa joue. Sarah devint tout à coup tremblante. Ses beaux yeux bleus se troublèrent. « Vous l'aimez plus que je ne croyais, lui dit-elle. » Et dès ce moment, elle devint tout autre qu'elle ne s'était jamais montrée à lui. Elle lui avoua que depuis longtemps elle s'était aperçue de ce qui se passait et que la froideur qu'elle lui avait témoignée venait de ce qu'elle n'avait cru voir en lui que la légèreté d'un homme du monde qui fait la cour à toutes les femmes sans se soucier du mal qui en résulte. Elle parla en sœur et en amie, avec chaleur et avec franchise. L'accent de vérité qu'elle employa pour montrer à Gilbert la nécessité absolue de rendre le repos à la comtesse le frappa plus que tout le reste ne l'avait pu faire. Et en un quart d'heure, il vit clair dans sa destinée. On se préparait à danser le cotillon. « Asseyons-nous dans le cercle, dit Gilbert. Nous nous dispenserons de figurer et nous pourrons causer sans qu'on nous remarque. » Elle y consentit. Ils prirent place et continuèrent à parler d'Emeline. Cependant, de temps en temps, un valseur forçait Sarah de prendre part à la figure. Il fallait se lever pour tenir le bout d'une écharpe ou le bouquet et l'éventail. Gilbert restait alors sur sa chaise, perdu dans ses pensées, regardant sa belle partenaire sauter et sourire, les yeux encore humides. Elle revenait et ils reprenaient leur triste entretien. Ce fut au bruit de ces valses allemandes qui avaient bercé les premiers jours de son amour que Gilbert jura de partir et de l'oublier. Lorsque l'heure de se retirer fut venue, ils se levèrent tous deux avec une sorte de solennité. « J'ai votre parole, dit la jeune fille. Je compte sur vous pour sauver ma sœur. Et si vous partez, ajouta-t-elle en lui prenant la main, sans songer qu'on pût l'observer, si vous partez, nous serons quelquefois deux à penser aux pauvres voyageurs. » Ils se quittèrent sur cette parole. Et Gilbert partit le lendemain. Dans le récit qu'on vient de lire, l'auteur a dit « Ce n'est pas un roman que je fais, madame, et vous en apercevez bien. On a dû s'apercevoir en effet que cette histoire n'a pas le caractère ordinaire d'une fiction. Emmeline n'est point un personnage imaginaire, et Gilbert n'est autre que l'auteur lui-même. On trouvera le récit de cette aventure dans la notice sur la vie d'Alfred de Musset, et l'on verra que les souvenirs qui s'y rattachent occupent une place considérable dans les poésies. Fin d'Emmeline.